Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold on, everybody. Here it comes.
Bah, je finis ma frite et c'est parti. Allez. En plus, faut que je change le nom d'épisode parce que, évidemment, avec tes conneries, j'ai perdu une semaine parce que t'es handicapé informatique. Donc voilà. Allez. Spotzol, le podcast du gravel et du bikepacking, épisode 170. Ici Richard Delhomme. Alors, j'avais noté initialement, j'avais préparé mon texte la semaine dernière et j'avais noté il y a 2 jours. Donc en réalité, maintenant, il y a 9 jours, je parlais avec un de mes athlètes. Et nous évoquions la difficulté de rouler en pignon fixe avec des gars équipés de freins et de roues libres. Question d'anticipation, en quelque sorte. Et là, Valentin me dit, pendant The Last Man Riding, j'ai vu 2-3 mecs tomber comme ça. D'ailleurs, je roulais avec l'autre, là, comment il s'appelle déjà, de celle à la barbichette. Et bien voilà, barbichette est là avec nous. Et attention, non mais t'as vu un peu, je reprends le même texte que la semaine dernière. Hein. Je me suis même pas foulé. Gare au jugement hâtif, il est peut-être affublé d'un truc qui lui pendouille sous le menton, mais quand Romain, il a un vrai prénom, fait chanter les cannes, vous pouvez être certain que ça va gicler dans les bosses. Non, j'ai un vrai problème de chien, moi, ce matin. Très attaché à sa région de la Moselle, Romain s'est également emmanché à parcourir le canal des Vosges, qui s'avère ne pas être le canal des Vosges, soit 550 km en pignon fixe. Voilà, vous savez tout, enfin presque tout. Pour écouter Romain parler, il va falloir allumer le traducteur simultané. Donc, bienvenue Romain et bonjour. Et avant d'entamer ce nouvel épisode, putain de saloperie de chien. Alors, je reviens sur la page de l'épisode. Et vous avez été nombreux à m'envoyer un message fort sympathique lorsque j'ai perdu mon beau chien Salomon. Et depuis hier, j'ai une nouvelle petite saleté à la maison qui s'appelle Cali. Donc en avant-première, je vais vous montrer mon nouveau chien, donc un bébé espagnol breton. Allez, viens là, saleté. Putain, te barre pas avec le fil. Viens là. Viens là, mon bébé. Voilà. Attends, papa remet le casque. Oh. Voilà. Regarde ça. Alors évidemment, si vous écoutez cet épisode uniquement en podcast sur Spotify et tout, bah là vous êtes marrons, vous ne verrez pas mon petit chien. Donc je vous encourage à aller jeter un œil sur YouTube pour aller voir la tête de mon nouveau chien. Voilà, regarde. Comment tu la trouves, Romain ?
Magnifique, salut Richard.
N'est-elle pas trop mignonne ? Bon, je sens qu'elle va me casser les seins.
Ouais, je pense qu'elle va te faire la misère pendant les prochaines années.
Ouais, bon, alors écoute Romain, on va replacer tout ça dans le contexte. On va replacer tout dans le contexte. Nous en sommes tous les deux à la 3e tentative. Qu'est-ce que je vais faire de toi, saleté ?
Si t'as autant de patience avec le chien qu'avec moi, ça va bien se passer.
Non mais alors par contre, la phrase que je viens de dire, elle était pour toi et pour lui. Hein. Qu'est-ce que je vais faire de toi, espèce de saleté ? Là, ça marche pour tous les deux. Donc nous en sommes tous les deux à la 3e tentative, parce que comme tu me l'as si justement dit, tu es handicapé informatique.
Malheureusement.
La première tentative, il n'y avait pas de connexion internet. La 2e tentative, la semaine dernière, le son était surpourri, absolument impubliable. Donc j'ai choisi de reporter. Et dans mon immense mansuétude, j'ai décidé de te redonner une chance. Pour une raison toute bête, c'est que tu as plein de choses absolument passionnantes à raconter. Si tu avais été un de ces bikepackers à la con qui roulent, qui passent leur temps à faire des selfies, tu n'aurais pas eu la moindre chance. Sauf que toi, ce n'est pas le cas. Donc, je suis à nouveau hyper content de discuter avec toi. Et je vais reprendre la blague de la semaine dernière, même si là, on ne voit rien. Tu as des enfants ou tu m'aurais menti parce que tu sembles super maniaque du rangement?
Oui, j'ai deux enfants, un garçon de 5 ans et une petite fille de un garçon de 7 ans et une petite fille de 5 ans. Voilà, aujourd'hui j'ai triché et je me suis mis sur fond blanc. J'ai un ordi portable, alors j'ai pu me déplacer. Tu verras pas l'arrière-plan de la maison.
Bah oui, parce que la semaine dernière, c'était ça quand même que j'ai trouvé assez frappant, c'est que la maison était au cordeau. Et c'était un petit peu une métaphore de ta préparation pour les événements, ou en tout cas les challenges que tu te donnes. C'est que tu es extrêmement méticuleux, donc ça se voit à l'organisation de la maison. Ça se voit également dans l'organisation de la famille, parce que tu m'as dit que, comme avec ta femme, vous êtes en horaire décalé, eh bien, tu gères pas mal de choses. Et du coup, ce goût du détail et cette méticulosité se traduit directement dans ta manière de pratiquer le sport. Est-ce que j'ai bon ou pas?
Ouais, c'est ça. En fait, sur les différents événements que je prépare, j'essaye de toujours essayer de tout anticiper. Alors, c'est pas que j'aime pas l'imprévu, mais dans le sport, surtout sur le longue distance, tu t'exposes toujours à l'imprévu. Donc, plus tu vas pouvoir anticiper de choses, plus tu vas pouvoir te mettre à l'abri de problèmes, que ce soit mécanique, que ce soit organisationnel. Et donc, comme en fait, moi, je bosse en travail posté. Donc je fais matin, après-midi, nuit et ma femme bosse de journée. Dans l'organisation de la maison, on essaye que tout soit ficelé au mieux. Alors, c'est sûr que tout ne peut pas être militaire, mais on essaye de bien pouvoir s'organiser parce que moi, je fais beaucoup de sport, mais elle en fait également. Donc voilà, j'essaye de faire mon sport dans la journée, quand les enfants sont à l'école, quand je suis en repos, pour qu'elle puisse faire son sport quand elle rentre, qu'on puisse s'occuper des enfants et puis que tout le monde puisse en profiter.
Tiens, je vais en profiter pour vous faire pareil pour ceux qui sont sur YouTube, pour faire une leçon de diététique.
C'est dommage que t'aies pas la même tasse que la semaine dernière, parce que je t'avais fait une petite dédicace.
Ah, t'as une tasse Reine des Neiges? Non mais attends, c'est pas un problème, regarde.
Bah, bien sûr.
Attends, je reviens.
Ah, voilà.
Attends, et en plus, exceptionnellement, aujourd'hui, je suis dans le salon et pas dans mon bureau pour surveiller le bébé chien. Donc, moi aussi, tu vois, je vais pouvoir boire mon Coca Zéro dans une tasse Reine des Neiges. Et je trouve que c'est quand même super classe.
Un Coca Zéro. Mais et, si tu vas au Burger King, pousse le vice complètement, prends un vrai Coca avec du sucre.
Non, quand même.
Oh là là, ça c'est non, juste non. Pour se donner bonne conscience.
Ah mais c'est exactement ce que j'allais te dire. Je suis un partisan de la diététique hypocrite. tu vois, je prends du Coca Zéro, mais par contre je prends deux fois des frites.
Ouais, voilà.
Voilà. Et puis je vais rouler cet après, mais tu vois, j'ai pas de mauvaise conscience. Là, je roule tous les jours, donc j'ai pas de mauvaise conscience à me taper du gras ou du sale, du sucre à midi avant d'aller rouler, même si c'est pas l'idéal, loin d'être l'idéal. Mais je vais encore aller me cailler. Bon alors. Est-ce qu'on peut résumer? Est-ce que tu peux me reparler un petit peu de cette idée saugrenue qui est de se taper le canal des Vosges entre ton domicile et loin quelque part en Allemagne? Est-ce que tu peux faire un bref rappel géographique, historique, minéral et géologique sur le canal des Vosges? La densité en sable également.
La profondeur, la largeur, tout ce
qu'on veut. Exactement. Le taux de pénétration de la pluie, toutes les informations capitales.
Donc en fait, c'est pas proprement parler le canal des Vosges, c'est-à-dire que j'ai suivi la Moselle de sa source, qui part du col de Bussan dans les Vosges à peu près 700 mètres d'altitude, jusqu'à sa confluence avec le Rhin qui se trouve en Allemagne à Koblenz. Donc la longueur du fleuve, c'est selon les sources, c'est environ 545 km. Et le long de la Moselle, en fait, on longe le canal des Vosges. Donc il y a une partie du bord de la Moselle qui n'est pas praticable par la piste cyclable, mais il y a en parallèle de la Moselle, il y a le canal des Vosges sur une centaine de kilomètres. Donc j'ai aussi en partie pris le canal des Vosges. Donc le but c'était de faire un projet sur une journée. Donc je m'étais donné, je pensais faire à peu près 24 heures pour faire ça. Donc je suis parti à minuit de Bussan, donc dans les Vosges. Et le but, c'était d'arriver, entre guillemets, le plus vite possible à Coblence, sachant que j'avais aucun objectif. C'était juste pour moi, il n'y avait pas de course, il n'y avait pas de dossard. C'était vraiment un pur trip perso. Et je passais au 275e kilomètre à côté de la maison. En fait, j'habite au bord de la Moselle. Et donc, tous les jours, quand je vais faire du vélo, tous les jours, quand je vais courir, enfin, tous les jours, quand je vais au boulot, je passe au-dessus ou au bord de la Moselle, quoi que je fasse. Et en fait, j'avais envie de me lancer sur un défi plus ou moins long, donc étant complètement novice dans le domaine. Et donc, j'ai eu l'idée de faire ça, et de faire le fleuve dans son intégralité, et en plus passer à côté de la maison, je trouvais que c'était sympa, quoi.
Alors, tu nous dis pas tout, parce que arrivé à la maison, tu en as profité pour faire une pause. Tu as également recueilli pas mal de gens qui sont venus rouler avec toi et t'accompagner avec toi. Mais le truc qui me fait vraiment le plus rire dans tout ça, c'est ton premier ravito au kilomètre 140. Est-ce que tu peux rappeler où tu as planqué le ravito du kilomètre 140?
Oh ouais, en fait, ce que je voulais faire, c'était faire un projet comme ça, perso. Et le but, c'est toujours compliqué quand tu organises un truc comme ça, de ne pas être trop dépendant des gens. Et surtout, le but, c'est un peu d'emmerder personne, quoi. C'est bien beau de vouloir faire 550 bornes, mais si on est obligé d'embêter tout le monde et d'être tributaire de tout le monde, ça ne va pas non plus. Donc en fait, ma mère m'a amené la veille au soir à Bussan. Et en fait, sur la route, le long de l'autoroute, on s'est arrêté. J'avais repéré la sortie, encore une fois, j'avais repéré. Et donc je me suis arrêté au bord de la Moselle au kilomètre, je crois que c'était 140, et en fait j'avais préparé un sac de ravito et je l'avais caché dans les arbres. Donc le but, c'était de pouvoir être en autonomie. Comme je partais à minuit, j'allais pas encore demander à ma mère de se lever à 4h du matin pour venir me donner un paquet de bonbons et un bout de pizza. Parce que le truc, c'était de s'arrêter le moins longtemps possible. Donc voilà, il fallait être bref, et le plus simple, c'était d'être autonome. Donc j'avais caché un sac à 1 mètre de hauteur pour être sûr qu'il n'y ait pas de bête qui aille fouiller dedans. Et donc j'avais mis des bouteilles, de quoi remplir mes bidons, et j'avais mis de quoi me ravitailler. Sachant que si tu manges le Burger King, moi je suis loin d'être un modèle de diététique non plus. C'est-à-dire que mes ravitos, moi, c'est des ravitos plaisir. L'objectif, c'est que c'est d'avoir envie de manger et de se faire plaisir. L'effort déjà est déjà suffisamment soutenu ou difficile. Au ravito, si c'est pour manger des choses que j'aime pas, moi ça m'intéresse pas. Donc mon ravito, c'était des Pringles, c'était des morceaux de pizza, des croque-monsieur, une canette de coca, enfin voilà, c'était vraiment de l'efficace.
Exactement. Tout ce qui fait plaisir. Alors je suis désolé, hein. Je me retourne souvent tout simplement, ou alors je baisse la tête, c'est pas que je t'écoute pas ou que...
Mais là, il y a pas de souci.
C'est qu'en fait, j'ai soit le bébé chien qui grignote mes chaussures, et là, j'ai vu le lapin partir à toute vitesse parce qu'ils sont en train de faire connaissance. On a le petit chien depuis hier. Et du coup, c'est la découverte entre Kimiko, le lapin nain, extra nain, et Kali, le bébé épagneul breton.
Quelle aventure!
Et dis donc, Kali, t'as fait pipi à côté, là?
Bravo.
Je voulais pas de chien, je me suis fait forcer la main par les enfants et maman, donc voilà, moi je voulais pas d'animal.
Tu es faible.
Ah ben alors, grave, hier on va le récupérer, tu veux un exemple de faiblesse? Tu vas voir un petit peu la férocité du personnage. Hier on va la récupérer, la fille de l'élevage nous dit, vous prenez une boîte, enfin une cage, tu sais, cage de transport, genre avion, tout ça, et pour les premières nuits vous la mettez dedans. Elle va pleurer, vous vous inquiétez pas, c'est normal. Mais il faut résister, c'est pour son bien. Donc j'ai fait ça hier soir.
T'as craqué au bout d'une heure.
Ah putain, si j'avais craqué. Alors déjà, si j'avais craqué au bout d'une heure, je serais hyper fier de moi. Donc je me suis mis au lit, j'ai commencé à lire. Et je l'ai entendu pleurer. Et au bout de 5 minutes, j'ai pris ma couette et je suis allé dormir sur le canapé avec elle.
Oh là là.
Donc là, j'ai dormi sur le canapé dans le salon avec le bébé chien dans les bras.
Ouais, t'es foutu. T'es déjà foutu. Il n'y a plus rien à faire.
Je m'en fous. Je sais très bien que je suis foutu. Mais si on ne s'occupe pas de ces petits animaux, quand même. Si on les a, c'est pour s'en occuper.
Ouais, donc, il y a tant qu'à faire.
C'est pour les aimer, pour les
câliner. Je suis d'accord. Donc,
voilà. Bon, il y a quand même une particularité dans ton bordel. C'est que t'as pas fait ça avec n'importe quel vélo.
Non, c'est ça. Alors, j'avais choisi de faire ça avec un pignon fixe, quitte à faire quelque chose de plat, autant prendre le vélo le plus adéquat pour faire du plat, c'est-à-dire un pignon fixe.
Je te laisse compléter, je finis mes frites.
Ouais, vas-y. Alors, je reviens juste sur ce que tu disais tout à l'heure. En fait, j'avais fait un espèce de planning prévisionnel de mes temps de passage. Donc, j'avais mis sur ma page Facebook. Alors, tout à l'heure, tu disais que je faisais pas de selfie. Bon, je reconnais mes torts, j'en fais quand même de temps en temps. Et donc, j'avais mis en story, en fait, un suivi au fur et à mesure de mon avancement dans la journée et dans la nuit, vu que j'étais parti à minuit. Pour qu'en fait, à partir du tableau, par rapport à ma vitesse moyenne, les gens puissent savoir à quel endroit et à quelle heure j'allais passer. Et en fait, le but, c'est que, bah, comme j'ai pas mal de copains cyclistes dans le coin, c'était que bah, ceux qui veulent faire un petit bout de chemin avec moi bah, puissent venir me rejoindre, alors qu'ils ne m'attendent pas toute la journée, quoi. Voilà, qu'ils puissent venir me rejoindre au moment opportun et faire un bout de route avec moi. Donc en fait, quand je suis arrivé vers Metz, il devait être à peu près 8 heures. J'ai eu mon premier copain qui m'a rejoint, et de là, sur 120 km, quasiment jusqu'à Trèves, en fait, j'ai toujours eu quelqu'un avec moi. Et au maximum, on a été à peu près une quinzaine de tous horizons. C'est-à-dire que j'avais des copains à moi qui étaient là, il y avait des copains de copains, au final, il y avait même des gens que je connaissais pas. Et sur le coup, j'avais fait ça un vendredi pour que les bords de la Moselle soient dégagés. C'est-à-dire que le but, c'était pas d'être un danger, parce qu'on sait comment ça se passe sur les voies vertes. Quand on déboule à 30 à l'heure sur une voie verte, avec les poussettes, les gens qui se promènent, enfin bref, si on fait ça le week-end, ça va pas. Donc j'avais choisi de faire ça un vendredi. Mais l'inconvénient, c'était que j'avais plein de copains qui voulaient venir et qui n'étaient pas disponibles. Et finalement, c'est un mal pour un bien, parce que si tout le monde avait pu venir, déjà là on était une quinzaine, on se serait retrouvé à un peloton de 60, quoi. Ça aurait été une folie. Et du coup, à mi-parcours, donc c'est là que j'ai choisi de m'arrêter bah, presque près de chez moi. Donc là, on était nombreux. J'ai des collègues et amis du boulot qui sont venus, qui m'ont fait la surprise d'être là. J'ai mon père qui était là aussi. Enfin, je me suis arrêté 45 minutes. Il faisait super beau, on était tous autour d'un banc. Enfin, pareil, le buffet pizza croque-monsieur, tout ce qu'il y avait. Et j'ai passé un super moment. Et derrière, quand il fallait repartir, bah, il fallait repartir pour 280 km. Sachant que j'avais jamais fait 280 km. Donc là, fallait que j'enquille un deuxième 280 km. Et en fait, le fait de m'être arrêté comme ça m'avait fait un bien fou. Et j'avais l'impression de repartir. J'avais déjà 8 heures de vélo dans les pattes, mais j'avais l'impression de repartir comme si j'étais tout frais, quoi. Et donc, du coup, pour en revenir au pignon fixe, pourquoi un pignon fixe? Ben, en fait, ça doit faire 10 ans depuis que je fais du vélo. Pour moi, l'objet ultime dans le vélo, c'est le pignon fixe. Il n'y a pas plus beau, c'est hyper classe, c'est hyper sobre, hyper épuré. On peut y faire la déco qu'on veut, enfin, c'est entre guillemets, ça coûte pas grand-chose, parce que forcément, il n'y a pas beaucoup de pièces dessus. Sauf que, voilà, ayant déjà un gravel, un VTT, un vélo de route, un vélo de chrono, parce que je faisais du triathlon, si c'était pour avoir un cinquième vélo juste pour aller chercher le pain de temps en temps, en fait, je voyais pas l'intérêt d'en acheter un si c'était juste pour le regarder, quoi. Et en fait, au hasard de la découverte de ton podcast, en fait, c'est par l'intermédiaire du Spotzle, l'épisode avec Benoît Bigot comme invité. C'est à cette occasion que j'ai découvert ton podcast. Ben, quand j'ai écouté ça, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des possibilités infinies avec un pignon fixe. Et voilà, si lui, il arrivait avec le niveau qu'il a, hein, je me compare pas du tout à lui, mais si lui arrivait à monter le Ventoux avec, il n'y avait pas de raison que moi j'arrive pas à monter les deux trois talus qu'il y avait autour de chez moi, quoi. Donc j'ai fouillé un peu sur le bon coin et j'ai trouvé un pignon fixe, voilà, à 300 balles sur Bordeaux. Donc le mec me l'a envoyé. Voilà, première sortie, premières impressions, ça m'a fait tout bizarre. Et une semaine après, bah, je pars au bord de la Moselle et me voilà à rentrer 200 bornes plus tard en ayant l'impression d'avoir redécouvert le vélo, quoi. Je m'étais vraiment éclaté et les chemins qui peuvent habituellement paraître un peu lassants ou un peu monotones ou qu'on connaît par cœur, et bah, quand on les prend sur un pignon fixe, et bah, en fait, on redécouvre tout, quoi. C'est vraiment une autre vision du vélo, quoi.
Est-ce que tu peux expliquer pourquoi on redécouvre tout et pourquoi c'est si entre guillemets si rigolo, enfin c'est à la fois rigolo mais aussi épuisant nerveusement de rouler comme ça parce que ça demande beaucoup de concentration. Est-ce que tu peux réexpliquer s'il te
Eh
plaît?
ben c'est ça en fait, en pignon fixe, comme on n'a pas de roue libre et comme on a, alors moi je, en déplaise aux puristes, je roule avec un frein avant. même si j'arrive maintenant avec l'expérience à quasiment ne plus m'en servir, ou juste par confort, je préfère toujours l'avoir par sécurité. Mais voilà, avec le pignon fixe, on est toujours concentré. C'est-à-dire qu'on peut pas se permettre d'arriver trop vite dans un virage, on peut pas se permettre d'arriver trop vite dans une descente, on peut pas se permettre de perdre le contrôle quand on est dans une descente. Ben voilà, il faut toujours garder de la motricité sur les jambes et toujours garder la possibilité de se ralentir. Donc avec une certaine fréquence, une fois que les jambes elles sont parties à 120-130 tours minute, on maîtrise plus rien, on peut plus s'arrêter. Donc voilà. Tout l'intérêt, c'est de toujours être dans la maîtrise, toujours être dans le contrôle. Et pour ça, ça demande une concentration permanente, c'est une anticipation de tout, que ce soit de la circulation, des autres cyclistes quand on est en peloton, des gens sur les voies vertes. Enfin, et du coup, la moindre sortie prend une autre dimension, en fait.
Ouais. C'est exactement de ça dont on parlait en fait avec Valentin. Parce qu'on parlait de The Last Man Riding, donc une épreuve auquel vous avez participé tous les deux en octobre, ouais. Je crois, par chez vous là-bas, c'était où?
Ouais, c'est ça. Ouais. C'était un petit peu en dessous de Nancy. C'était. Voilà.
Alors, ouais. Valentin, il est à Toulouse, mais son frère est dans les alentours. Et vous étiez donc une poignée en pignon fixe. Et c'est vrai. Bon, donc on parlait de ça. C'est vrai qu'on roule avec des gens qui sont en dérailleur frein. C'est un petit peu stressant parce que ils vont avoir tendance à faire des écarts, à freiner au dernier moment. Et nous, on a pour ceux qui sont en pignon fixe, il y a vraiment besoin de ce degré d'anticipation et de maîtrise. Et on peut pas se permettre de rouler avec des anchois qui vont freiner au dernier moment, nous frôler, parce que nous, on n'a pas cette liberté, en fait. Il faut être beaucoup plus dans le contrôle.
C'est ça. Puis quand tu viens comme ça dans une organisation en groupe, comme ça, en pignon fixe, tu peux pas non plus demander aux gens de faire attention à toi, parce que voilà, c'est toi qui as décidé de venir en pignon fixe, donc c'est à toi d'assumer ton choix. Par contre, voilà, il faut rapidement, quand tu es en peloton comme ça, déjà, il faut toujours garder une marge de sécurité, une marge de manœuvre, et il faut rapidement cerner, on les voit vite, hein, les gens dans les pelotons, ceux où il faut pas rester trop à côté de lui, ceux qu'il faut vraiment toujours garder du coin de l'œil, parce que si ça part en vrille, tu peux être sûr que ça viendra d'eux, parce que voilà, il faut toujours savoir d'où va partir la vague dans le peloton. Et voilà, moi sur le Last Man Riding, j'ai choisi d'être régulièrement à l'arrière et voilà, de gérer ma course tranquillement, quoi.
Bon, tu peux voir que je suis quand même un sacré dur, hein, avec mon cheval dans les bras. la pauvre, quand même.
Voilà, elle a l'air malheureuse, tiens.
Elle a un mois et demi, la pauvre, on l'a arrachée hier à sa maman et à ses frères et sœurs, alors c'est quand même la moindre des choses. On reviendra sur The Last Man Riding un petit peu,
ouais.
Tout à l'heure, mais là, ce qui m'intrigue en fait dans ton truc sur le canal, c'est que tu as fait ça pour rien.
Ouais.
C'est ça qui est à la fois, c'est ce que je te disais la semaine dernière, et c'est ça qui a généré finalement la frustration que l'épisode ait été foiré à cause d'une mauvaise qualité sonore, c'est que tu as fait ça pour rien. Et là, tu vois, c'est un débat que j'ai avec plusieurs athlètes. Faut-il continuer à s'inscrire à des épreuves, que ce soit le déplacement, le tarif d'inscription, la contrainte de faire 1000 km dans un endroit, alors que finalement, pour le tarif, tu vas recevoir un GPX et une casquette moisie.
Ouais.
Est-ce que ça vaut pas le coup de faire juste son truc de son côté et d'explorer soit vraiment aller loin, et là ok, pas de problème, tu prends l'avion, t'emmènes ton vélo et tu vas explorer, soit explorer les alentours de chez soi, comme je te disais la semaine dernière, même avec des années de vélo ici autour de la maison, je continuais à découvrir des chemins et j'en ai découvert la semaine dernière.
C'est ça, en fait.
Et je crois que la sortie d'hier, j'ai 17 nouveaux kilomètres.
Ouais, ouais, tu vois, comme 40. Quoi. Mais en fait, le faire ça pour rien, en fait, c'est parti... L'élément déclencheur de tout ça, ça a été le Covid. C'est-à-dire que moi, je faisais du triathlon depuis 10 ans, et les calendriers en triathlon, c'est toujours les mêmes. Tu as des grands événements qui te plaisent, tu as des grands événements que tu as envie de faire ou autre. Et en fait, tu te retrouves arrivé au 31 décembre, tu peux planifier ta saison sur tout ce que tu vas faire l'année d'après. Et voilà le Covid, tout annulé et plus rien, entre guillemets, plus rien à faire. Et moi, j'arrive bien à m'entraîner, mais voilà, je suis un mulet. Moi, si j'ai pas de carotte, j'avance pas. Donc voilà, je me retrouve, y a plus de compétition, il n'y a plus rien, qu'est-ce que je fais? Et voilà, donc je commence à regarder un petit peu et je tombe sur la route des Grandes Alpes. Donc la voie Thonon-Nice. Et donc je regarde, je commence à planifier, et puis là tout de suite l'idée commence à me plaire. Mais et c'est de là en fait qu'est venu le fait de pourquoi toujours attendre d'avoir une compétition pour faire quelque chose qui nous plaît. Et dans ton podcast, j'ai écouté celui qui m'a beaucoup plu avec Éric Le Blacher, qui lui résumait bien la chose en disant pour faire, j'ai besoin que ça me parle, j'ai besoin que quelque chose me plaise. Et en fait, on se retrouve majoritairement à aller faire des courses, bah parce que bah, tout le monde va la faire, donc on va faire cette course-là. Parce que tout le monde a dit que c'était bien, donc on y va. Et en fait, bah, pendant la période du Covid, je me suis mis à étudier les cartes, à faire mon petit parcours, à prévoir des étapes. Parce que voilà, il y avait des tour opérateurs qui organisaient ça, mais moi, pour maximiser l'efficacité et perdre le moins de temps possible, voilà, je suis parti dans mon coin. Ah, l'autre facteur.
Alors, je te laisse continuer.
Vas-y.
Alors, attends, non, on fait une pause.
Ouais.
Parce que je crois que c'est un gros colis qui arrive. J'arrive. Tiens, j'espère que c'est ce que je pense, comme ça je pourrais bâcher un petit peu. Je reviens. Je reviens, Mimi. Je reviens. Voilà, pardon. Donc tu disais pour maximiser le déplacement.
Ouais, voilà, donc j'avais regardé à peu près là où je pouvais faire mes étapes pour trouver un hôtel à proximité, pour trouver de quoi manger, parce que voilà, il s'agit pas d'avoir fini son étape et de devoir faire encore 50 bornes pour trouver un resto. Enfin bref, j'avais trouvé, j'ai réussi à faire ça sur 5 étapes. Donc je suis parti le lundi de Thonon, je suis arrivé le vendredi à Nice. Et en fait, ces 5 jours-là, j'ai découvert autre chose. J'ai découvert un nouveau sport. J'ai découvert, alors, au-delà du bikepacking et de... Alors, c'est pas vraiment de l'ultra, parce que je faisais des étapes de 130 bornes. Le soir, je dormais à l'hôtel. Mais voilà, j'ai découvert un autre délire. C'est-à-dire que tu pars le matin et ton seul objectif, bah, c'est d'arriver le soir au point défini. Quand tu as envie de manger, bah, tu manges. Quand tu trouves une boulangerie sympa et que ça te plaît, bah, tu t'arrêtes. Quand tu trouves un spot où tu as envie de t'arrêter 5 minutes pour observer le paysage, et bah, tu le fais. Et là, il n'y a plus de notion de moyenne, il n'y a plus de notion de temps, il y a juste une notion de plaisir et de découverte et de sensation. J'ai passé 5 jours dans un décor de carte postale. En plus, comme on était post-Covid, bah, y avait très peu de monde sur la route. Enfin, j'avais l'impression d'avoir les Alpes pour moi tout seul. Et en fait, quand je suis rentré de ces 5 jours-là, eh ben, c'était fini, quoi. Je ne dis pas que mettre un dossard, c'était fini, mais ce n'était plus une fin en soi. Ce n'était plus l'objectif principal de faire telle course pour faire tel chrono, pour faire 5 minutes de mieux que l'année dernière, pour avoir ma médaille de finisher ou autre. Non, mon but, c'était de faire du sport pour me faire plaisir. C'était aller rouler en vélo. Ben, au lieu de chercher toujours à avoir 30 de moyenne, et ben, si je rentre et que j'ai 25 de moyenne, mais que j'ai bu un café dans un super coin et que je me suis fait plaisir, et ben, en fait, c'est ça qu'il faut faire. Et donc le projet autour de la Moselle, c'est un peu comme ça qu'il s'est construit. C'est-à-dire que je me suis dit, on va à l'autre bout de la France, à l'autre bout du monde ou autre, pour découvrir des nouvelles choses. Quand on arrive en vacances, le premier truc qu'on fait, c'est regarder sur Strava les nouveaux chemins qu'il y a autour pour aller faire de la découverte ou autre. Et finalement, bah, presque autour de chez nous, on ne profite pas de ce qu'on a. Donc l'idée, c'était de faire un défi d'une grandeur assez importante, tout en restant à proximité. Donc c'est pour ça que la Moselle, ça s'est tombé tout naturellement, parce que j'arrivais à faire 550 km, 543, et passer à 1 km de la maison. Donc ça s'est fait tout seul, en fait.
Est-ce que ça veut dire que tout ça t'a détourné du triathlon ?
Malheureusement, j'en ai bien peur. En fait, c'est pas tout ça
Moi, je suis content. Moi, je suis content. Hein. Je trouve que c'est une bonne nouvelle. Hein.
C'est pas tout ça qui m'a détourné du titre du triathlon. En fait, c'est un ensemble. Voilà, il y a des magnifiques courses en triathlon. Hein. Il faut pas cracher dans la soupe. Mais voilà, il y a Gérard Maire qui est fantastique. Je l'ai fait 3 fois. Mon rêve, c'était de faire l'Embrunman. Bon, bah, j'ai fait l'Embrunman. Je voulais faire l'Altsman, qui est aussi un nouveau triathlon emblématique dans les Alpes. Je l'ai fait aussi. Voilà, en gros, le seul triathlon qui me fait encore rêver, c'est le Northman, et c'est un tirage au sort. Donc voilà, je continuerai à m'inscrire tous les ans, et si un jour par chance je serai tiré au sort, et ben j'irai. Mais voilà, parce que c'est une case à cocher quelque part dans ma tête, et c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Mais je me suis toujours dit, le jour où j'ai plus peur, j'arrête. Tu vois, ça peut paraître con ou prétentieux ou autre. Mais ce qui nous fait faire des courses, ce qui nous fait nous lancer des défis, c'est cette recherche d'adrénaline, c'est ces petits picotements dans le ventre, c'est ce qui fait que tu te souviens d'un départ de course. Mon premier triathlon longue distance à Gérard Maire en 2010, si je ferme les yeux, je peux te dire quelle musique y passait des Black Eyed Peas, je peux te dire ce que je ressentais, les sensations, je les revis encore aujourd'hui. Et au mois de septembre, je me suis réinscrit sur ce même triathlon à Gérard Maire. Et en fait, on était au départ avec un pote et tu m'aurais dit que j'étais là pour discuter ou pour faire un triathlon. J'avais pas plus de sensations, j'avais pas plus d'appréhension et il se passait rien. Donc c'est que j'avais fait le tour de la question et qu'il était temps de faire autre chose. Et que j'avais peut-être envie de faire autre chose.
À la bonne heure.
mais c'est sans regret, hein. Et après le triathlon, bizarrement, j'ai pas été coureur, ni cycliste, ni autre. J'ai commencé le sport par le triathlon. Et donc voilà, le triathlon m'a fait découvrir le vélo, m'a fait découvrir la natation, même si bon, je le faisais un peu par la force des choses. La course à pied, voilà, aujourd'hui je me suis lancé sur des trails. Et tu vois, j'ai fait mon premier trail de 100 km un mois après le triathlon de Gérard Maire. Et j'ai retrouvé les sensations d'il y a 12 ans à mon premier triathlon. C'est-à-dire que j'étais sur la ligne de départ à minuit. Voilà, je tremblais de partout, je savais pas où j'allais, j'avais de l'inquiétude, j'avais du stress. Et en fait, c'est ça qu'il nous faut, quoi. Donc que ce soit sur une course ou sur un projet personnel ou quelque chose qui nous tient à cœur, bah, le but, c'est d'aller là où on a envie d'aller.
Alors... Déjà, je pense que la plupart de tes collègues de travail vont écouter cet épisode. Donc, de tout cœur, les gars, je suis avec vous parce que s'ils causent autant au travail, et ben, après, faut pas s'étonner qu'il y a des incidents nucléaires. Faut pas s'étonner que le parc français soit aussi délabré.
Si tu savais, il y en a un, je sais qu'il va écouter. Et le pauvre, je lui raconte toujours mes histoires. Et le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient, qui me repose, alors comment c'était dimanche, et ben, il réentend l'histoire. Le pauvre, il est au bout de sa vie.
Ouais, bah ouais, mais bon.
Hein, voilà. On se refait pas.
Exactement. tout à l'heure, tu m'as dit, j'ai fait les épreuves qui me faisaient rêver. Il y en a quand même une encore qui te fait rêver. On l'a évoqué brièvement la semaine dernière.
Ouais.
Parce qu'on parlait du... Bah là, on en a parlé un tout petit peu, des épreuves qui sont parfois devenues de plus en plus chères. Dans le triathlon, le Half Ironman, enfin, 70.3.
Ouais.
Parce que c'est beaucoup plus classe de dire comme ça. c'est devenu extrêmement cher. En ultra, on peut constater que les tarifs augmentent aussi sensiblement. Et pourtant, tu as envie d'aller faire...
L'UTMB. C'est mon grand paradoxe. Alors... Si on remonte à l'historique, j'ai l'affiche dans mon garage de l'Ultra Trail du Mont Blanc 2008. Et ça fait partie des choses qui ont fait allumer une case dans ma tête. Un jour, j'ai vu ça. Et je me suis dit, mais c'est possible de faire le tour du Mont Blanc, en courant. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance, avec le développement de l'Ultra, à tout banaliser. Mais faire le tour du Mont Blanc en courant, c'est un truc de dingue. Qu'on puisse faire la RAF en ultracyclisme et traverser la France en vélo, c'est un truc de dingue. Même si on a l'impression par l'intermédiaire des réseaux sociaux ou autres que c'est devenu presque normal de faire ça, non, il faut remettre l'église au milieu du village. Faire le tour du Mont Blanc à pied, moi, pour moi, encore aujourd'hui, voilà, je me suis lancé dans un projet sur 1 ou 2 ans parce que avec les inscriptions, avec les tirages au sort, avec les qualifications, c'est tout un micmac pour y parvenir. Mais voilà, aujourd'hui j'ai déjà fait un 100 km de trail, ça me paraît toujours impossible de me dire qu'on peut faire le tour du Mont Blanc en courant. Et donc voilà, je me lance dans ce projet-là, je veux essayer de le faire, et donc je voudrais participer à l'UTMB plus ou moins long terme.
Bah, peut-être que dans les semaines à venir, et je sais qu'il écoute, donc je sais que ça va le faire rigoler, on pourrait peut-être imaginer un épisode avec toi et Eric Le Blacher, comme ça vous pourrez déjà formaliser votre projet de livre de philosophie.
Ah ben, je pense que si on commence à parler tous les deux, là tu peux éteindre le micro, puis tu rallumes 6 heures après, on discute toujours.
Ah non, mais c'est pas un problème, tu sais, moi j'irai au Burger King, il y a de la pizza, moi ça je l'ai déjà fait, hein, c'est pas un problème. Laisser deux personnes parler et me goinfrer pendant ce temps-là, où je me mettrai sur Zwift, où j'alterne, pizza, Zwift, Burger King, Zwift, très bien, moi ça me va parfaitement, mais il y a quelque chose à faire en effet.
Mais c'est vrai que c'est un des podcasts que j'ai écouté qui m'a le plus inspiré, c'est vrai que... Eric, quand il parle, alors, au-delà du vécu qu'il a d'ancien sportif pro, enfin voilà, il a été au plus haut niveau. Mais quand tu l'écoutes, tu t'entends vraiment que c'est un passionné et qu'il fait vraiment les choses pour le plaisir. Quand il le dernier épisode, quand il disait qu'il a été faire le tour de la barre des écrins 4 jours en marchant juste pour se vider la tête, moi je trouve ça magnifique. Alors aujourd'hui. J'ai des enfants en bas âge, j'essaye d'optimiser pour être absent le moins longtemps de la maison et profiter un maximum d'eux. Mais c'est le genre de choses qui me fait rêver un jour, pour, voilà, plus tard, quand ils seront plus autonomes, qu'ils auront moins besoin de leur papa. Voilà. C'est le genre de truc que me dire que je peux partir à pied 4 jours juste pour me vider la tête, moi, je trouve ça fantastique.
Bah, moi, en tout cas, j'ai un petit chien qui dort sur mes bras. Et elle, visiblement, elle est bien partie pour avoir besoin de moi un bon moment.
Elle a trouvé sa place, elle est bien.
Ouais, ça a pas été, j'ai pas été difficile à convaincre. Alors, il faut qu'on parle de deux trucs. Déjà, la première chose, c'est que la semaine dernière, tu avais un magnifique t-shirt flandrien avec un vélo dessus.
Ouais.
Et j'en avais profité pour faire une dédicace. Donc, je t'avais montré un maillot de vélo de la marque flandrien, une marque de bière.
Ouais.
Et j'en avais profité pour adresser une dédicace à mon vieux Philippe M du sud de Bruxelles. Donc je réitère la salutation et je t'embrasse bien fort, mon grand. Et également, la semaine dernière, là tu en as parlé un petit peu brièvement, tu as parlé de Eric Le Blacher qui nous avait raconté son abandon sur la Race Across France, sur le débordement un petit peu de sa chasse d'eau. Et toi, tu as une théorie très similaire que tu appelles la jauge mentale.
Ouais, c'est ça.
Tu peux revenir là-dessus, s'il te plaît.
En fait, dans le sport, je pense qu'au-delà des capacités physiques que chacun peut avoir, ça c'est inné et c'est l'entraînement aussi qui permet de le développer. On a une chose que moi j'appelle ça la jauge mentale, c'est-à-dire je visualise ça comme un grand vase d'eau. Et notre capacité à faire un effort, c'est l'équivalent de la quantité d'eau qu'il y a dans la jauge mentale. Je pense que c'est propre à chacun, donc il y a des coachs mentaux qui permettent de développer des aptitudes, qui permettent de maximiser ses compétences mentales. Mais on a une capacité, je pense, à faire les choses, à se projeter vers quelque chose, à faire un effort, et qui n'est pas infini. C'est-à-dire que moi, ce qui m'épate toujours quand j'écoute ou que je lis certains comptes rendus, c'est la capacité que certaines personnes ont à reproduire les efforts. Au-delà de la capacité physique et de la capacité de récupération, c'est la capacité à se concentrer et à se projeter vers autre chose. Quand j'entends des personnes qui font dans différents sports, mais à 2 ou 3 semaines d'intervalle, un ultra ou autre, moi personnellement, même si physiquement j'en serais pas capable, même mentalement j'en serais pas capable non plus. J'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin de récupérer, j'ai besoin de presque de repartir à zéro, et en fait je schématise ça comme une jauge mentale qu'il faut re-remplir. C'est-à-dire que sur une course, on va ouvrir le robinet tout plus ou moins fort, donc en fonction de la difficulté de l'effort, de la durée, des conditions météo, des conditions qu'il peut y avoir autour de nous, et on va plus ou moins vider cette jauge mentale. Et le problème, c'est qu'à la fin de la course, on ferme le robinet. Sauf qu'il va falloir re-remplir cette jauge. Et c'est là où la difficulté est, et que c'est vraiment propre à chacun. Et qu'il faut vraiment prendre le temps de faire attention à bien repartir sur l'événement suivant avec la jauge remplie. Et ça, bah, ça dépend du contexte, voilà, ça dépend de la période de l'année. Il y a des moments où on est plus sollicité familialement, on est plus sollicité au niveau du travail, on est plus sollicité au niveau de l'entraînement. Voilà, par exemple, en hiver, si on va faire un gros effort, la jauge mentale, elle va fortement descendre. Par contre, quand il va falloir aller se rentraîner, quand il fait moins 5, quand il pleut, quand il fait nuit à 17h, bah, tout ça, ça influe et ça met plus ou moins de temps pour remplir en fonction des gens. Je sais que moi, par exemple, je mets du temps à remplir ma jauge mentale. J'ai pas une grande capacité à enchaîner les grosses difficultés. Et voilà, après, chacun fait comme il peut avec ses moyens. Mais c'est vraiment une problématique qu'il faut prendre en compte.
Alors, tu te souviens de l'épisode avec Guillaume, mince, là j'ai oublié son nom par contre, le prof de physiologie de l'université de Saint-Étienne, donc qui a couru de nombreux ultras.
Guillaume Millet.
Guillaume Millet, exactement, ouais. Voilà, merci. Lui, il a une théorie très similaire qu'il appelle la théorie de la chasse d'eau, qui est ce que tu viens exactement avec d'autres termes, mais qui revient exactement à ce que tu viens de décrire, ce que Guillaume a décrit, ce que... Eric avait décrit, ce que le Brognard avait décrit également, qui est finalement notre capacité à arriver relativement frais et à pouvoir absorber les aléas de la course, à se donner, à se dépasser, mais sans qu'il y ait vraiment le petit truc qui vient faire déborder la chasse d'eau. Donc si on arrive en ayant l'état tailleur avec le déménagement ou des problèmes de couple ou un problème au travail, n'importe quoi, et qu'il y a un truc qui déraille pendant la course, on est à peu près sûr que ça va mal se passer, tout simplement parce que la chasse d'eau est déjà presque pleine quand on part. Et pour Eric, c'est ce qui s'était passé, on l'a tous vécu,
oui.
Les exemples ne manquent pas, et on arrive, on sent qu'on a les jambes, mais on sent que la tête n'est pas là et on n'a pas envie de se dépasser.
C'est là où c'est le plus frustrant, c'est quand on a les jambes et que c'est la tête qui ne suit pas, parce que c'est un vieil adage hein, qui dit que c'est la tête qui fait avancer les jambes, mais c'est clairement ça. Il y a des fois, ça ne marche pas et il faut savoir se poser les questions de est-ce qu'on est venu là pour les bonnes raisons, est-ce qu'on est venu là dans les bonnes conditions, dans le bon contexte, et tout ça influe sur le remplissage de la jauge mentale en fait. Enfin, moi, je schématise ça comme ça. S'il n'y a pas un bon alignement de planètes, ça ne marche pas.
Ouais. Et autre truc très intéressant, décidément, j'ai bien fait de te réinviter. Hein, je suis quand même drôlement content. Finalement, c'est pas mal d'être sympa quand même, parce que ça évite de faire des erreurs. De savoir pourquoi on est là, parce qu'on a la pression, comme pour l'ultra-trail, comme pour le développement d'ultra-vélo ou plein d'autres choses. On a l'impression que lorsque une activité devient à la mode, populaire, beaucoup s'y alignent parce que c'est le truc qu'il faut avoir fait pour l'expérience ou pour pouvoir se pavaner. Par exemple, avoir sa médaille de finisher à la fin d'un demi-Ironman. Mais n'empêche que quand ça devient dur, il faut quand même savoir pourquoi on est là et savoir à quoi on se raccroche pour se battre et terminer, plus ou moins.
Ça, et au-delà de, tu parlais de médaille de finisher, c'est la bonne image, mais il faut, pour réussir à se dépasser, il faut être là pour les bonnes raisons. Et tu peux, moi je prends un exemple sur les 543 km que j'ai fait au bord de la Moselle, j'ai réussi à les faire, j'avais jamais fait cette distance-là avant, hein. Ma plus grosse distance c'était 250 km, et je m'étais vraiment lancé ce défi. Et ce qui fait peut-être que j'ai réussi à le faire, c'est que j'avais envie de le faire, c'était quelque chose qui me tenait à cœur, c'est quelque chose qui me plaisait. J'avais essayé de mettre toutes les chances de mon côté pour que les planètes s'alignent et pour que ça fonctionne. Et peut-être que si j'avais été m'inscrire sur une course avec exactement les mêmes proportions, les mêmes ratios, alors il y aurait peut-être même eu plus de ravitaillement, enfin tout aurait peut-être été mieux. Mais si je l'avais fait juste pour avoir mon t-shirt de finisher ou faire ma photo, sous l'arche d'arrivée pour montrer aux copains que j'y avais été et que ça avait été la seule motivation pour y aller, et j'aurais peut-être pas réussi. Et je suis presque sûr que j'aurais pas réussi. Alors que là, j'étais comme animé par ce que j'avais envie de faire. J'avais l'impression d'être en mission Coblence et derrière, les jambes elles tournent et on avance, quoi. Alors que ça aurait peut-être pas marché ailleurs.
En avant Coblence.
En mission Coblence. C'était l'arrivée. C'est l'arrivée à Coblence.
Ah, d'accord. Ouais. Parce que la semaine dernière, déjà, tu m'as cité la référence de d'un personnage d'une série qui passait sur TF1.
Ah ouais, Monk. Question,
je me suis senti fort ridicule de ne pas regarder TF1.
Ah, bon, c'est vieux, hein, ça doit faire au moins 10 ans que ça passe plus, Monk.
Mais ouais, du coup, c'est ton surnom, Monk.
Ouais, malheureusement.
Parce que c'était... alors attends, du coup... Ah bah oui, mais je peux pas regarder parce que j'ai le bébé chien qui dort dans mon bras.
Mais ouais.
Pour une fois, tu vas pas me croire, j'ai la main droite immobilisée, je peux rien faire avec ma main droite. C'est quand même dommage, hein. Mais oui, donc Monk, c'était le personnage d'une série détective privé, je crois.
C'est ça, et particulièrement maniaque.
Ouais, moi j'aurais dit affublé de plusieurs tares.
Ouais.
Oui, tu peux dire maniaque.
Mais
ça revient au même.
Moi, je me soigne pas, hein, je le vis bien. C'est... Mm. Eh bon, on se refait pas. Mais apparemment, même quand je mange la raclette, ça se voit. Hein, parce qu'on a été faire un enterrement de vie de garçon pour l'anecdote ce week-end. Et quand j'ai mangé la raclette, au bout d'un quart d'heure, le mec qui était à côté de moi a commencé à regarder mon assiette et il m'a dit, mais tu fais flipper quand tu manges la raclette, parce que chaque chose a sa place dans l'assiette. Donc apparemment, même au bout d'un quart d'heure à table, ça se voit. Hein, donc. C'est comme ça. Mais je le répète, je le vis très bien. Puis a priori, ma femme le vit bien aussi, donc ça va, ça permet à mes collègues de me chambrer à longueur de journée, donc c'est pas grave. Ça.
Ouais. Moi, j'ai une théorie là-dessus, en fait, qui s'appelle la diagonale Vicky Mendoza.
Oh, bordel.
Mais ça, je vous le réexpliquerai une autre fois. C'est surtout ne jamais passer la diagonale Vicky Mendoza. Ça, c'est terrible. C'est très, très difficile. Bien, maintenant que nous en sommes là, alors, au passage, ta fausse modestie sur... j'étais aux 280 km, j'avais jamais fait 280, il m'en restait 280 à faire. Mais ton maximum, c'est 250. Hein, merci bien.
Mais véridique,
mais ça je te crois. Mais
tu peux aller regarder mon Strava.
Mais je vais pas aller fouiller, je ne suis pas. Enfin, si je le suis, mais pas autant quand même. Et n'empêche que c'est quand même un peu de la fausse modestie, Romain. Faut arrêter les conneries deux secondes.
Ben en fait, à la base du projet, c'était j'ai des copains qui m'ont appelé. Viens, on va faire le tour du Luxembourg. Ça fait 360 km. Tu roules bien, viens avec nous. Et bah, on en reparlait, il faut quelque chose qui me parle, voilà, moi je suis pas luxembourgeois, je bosse pas au Luxembourg, faire le tour d'un pays, pourquoi pas, ça pouvait être fun, mais ça me parlait pas, ça me motivait pas, et quand j'ai commencé à regarder ce que je pouvais faire, que j'avais envie de faire, quand j'ai vu les 543 km, clairement je me suis dit, c'est pas faisable, c'est trop long, bien au-delà de ce que j'ai déjà fait. Et puis voilà, en réfléchissant un peu, en regardant un peu vitesse moyenne, sachant qu'il n'y avait que très peu de dénivelé, bah, j'ai fini par m'auto-convaincre que c'était faisable. Quoi. Et pour preuve, ça l'était. Mais c'était, j'ai quand même un petit peu sauté dans le vide hein, quand je me suis lancé sur ce truc-là. Sachant que je prenais aucun risque. À 275 km, je passais à côté de la maison. Bah, au pire, je m'arrêtais là et ça n'allait pas. Je faisais le reste le lendemain, je faisais le reste la semaine dernière. Je le faisais jamais. Enfin voilà, je prenais pas de risque, je me lançais un défi et ça marche pas. À part, j'avais partagé ça sur mon Facebook, sur mon Instagram. Voilà, à part passer peut-être pour un con auprès des gens qui me suivent, voilà, ça m'aurait pas tué.
Alors je te confirme, passer pour un con, ça tue pas, hein, sinon.
Sinon, j'aurais pas une barbichette tressée et une crête sur la tête.
Bah, puis surtout, t'écouterais pas de podcast depuis un bon moment, donc.
Donc voilà, après. Peut-être la fausse modestie, je sais pas. En tout cas, je me suis quand même bien lancé dans le vide le jour où je me suis lancé.
Alors, pour faire un bref rappel des chiffres, c'est 543 km ouais. que tu as couvert en
19h20.
Ce qui nous fait 29 de moyenne.
Ouais, en fait, j'ai 30 de moyenne roulée et 28 de moyenne en comptant les arrêts. Ouais.
Et avec un dénivelé de 800, ce qui est quand même
voilà, c'est
500
ça.
km, on va dire que c'est grave plat.
Oui, clairement, à part les 2-3 bosses à passer. Ouais.
Mais et, n'empêche que...
et en braqué, j'avais 50-18. J'avais 50-18 en braqué.
Donc ça enroulait bien.
Ouais, je crois que j'ai 90 tours minute. Alors, je suis pas un fan de data, mais voilà, c'est la seule data que j'ai. J'ai 90 tours minute, c'était vraiment le braquet idéal pour ça. Quoi.
Ouais, c'est une bonne idée d'avoir gros devant et gros derrière.
Ouais, Ouais, c'est. Bon, après, moi,
c'est un bon rendu.
J'invente rien. Hein. Je me suis juste inspiré des meilleurs dans le domaine. J'ai regardé ce que faisait Benoît. Ouais. Et j'ai fait pareil. Clairement.
Oh. Ouais. Bon, maintenant, on va parler de The Last Man Riding. Donc, ouais. Est-ce que tu peux rappeler finalement ce qu'est cette drôle d'épreuve avec un nom bizarre?
Alors, le Last Man Riding, c'est un principe très simple. Il y a 100 participants au départ et il y a un finisher à l'arrivée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de classement, il n'y a pas de deuxième, il n'y a pas de troisième. C'est une boucle, alors, en fonction des épreuves, elle est différente, mais là, sur l'épreuve que j'ai faite près de Nancy, elle faisait 23 km de mémoire avec 270 mètres de dénivelé. Et la seule règle, c'est d'être présent une heure après le départ pour un nouveau départ. C'est-à-dire, on prend l'allure qu'on veut. Si on veut boucler les 23 km en 59 minutes et d'être prêt pour repartir une minute plus tard, ou si on veut les boucler à fond de cale en 40 minutes pour se reposer, pour s'alimenter ou autre, la seule règle, c'est d'être présent au départ suivant. Donc à chaque tour, y a des éliminés, il y a des gens qui choisissent d'arrêter, il y a des gens qui sont hors délai, et ça tourne comme ça jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus qu'un. Donc c'est inspiré du trail, il me semble.
Oui, c'est inspiré directement du Barclay Marathons,
ouais.
Qui après l'organisation de cette épreuve s'est lancé dans l'organisation de The Last Man Standing, donc le dernier homme debout,
ouais.
On pourrait dire le dernier humain debout,
mais ouais, en tout cas, tu vois ce qu'ils font, hein.
Parce qu'on peut avoir des surprises. Et au départ, donc, en plus de Romain Lescane, ici présent, nous avions le duo infernal Hugo et Valentin Rob,
ouais.
Que je salue bien bas au passage. Et surtout, un véritable outsider, il y avait Jörn Boringer,
ouais.
Qui revenait de sa deuxième ou troisième place à l'Atlas Mountain Race. Et lui, c'est un vrai costaud. Et
ouais,
il y avait deux, trois autres noms tu m'as donné que j'ai oublié.
Damien Vuillier et Alix Masson. Donc ils sont trois à finir ensemble, mais les mecs, quand tu regardes leur palmarès, tu te sens tout petit, quoi. Les mecs, c'est des machines de guerre. Quand tu vois, alors je connaissais pas l'allemand là, dont tu m'as cité le nom.
Jörn Boringer.
Ouais, mais Damien Vuillier, il a quand même gagné les 24 heures du Mont Vélo avec, je crois qu'il a 900 km, quelque chose comme ça. Ces mecs là. Ils ont décidé de s'arrêter symboliquement au bout de 24 heures. Ils ont arrêté tous les trois. Alix Masson, c'est pareil. Il avait fait 700 et quelques kilomètres. Enfin, s'ils se mettent pas d'accord, je dis pas qu'ils tournent encore aujourd'hui, mais tu te sens tout petit quand t'es à côté d'eux.
Ouais.
Ah ouais. Mais ce qui les empêche pas d'être super accessibles, super sympas. Et j'ai passé un super moment à rouler avec eux, quoi.
Alors, quelle stratégie tu as adoptée justement? Parce que, comme tu l'as dit, il y a une heure pour faire 23 km, ce qui veut dire que globalement, on peut soit bombarder pour avoir un temps de récup, soit prendre son temps et aligner les tours avec une allure extrêmement lente.
C'est ça. Moi, en fait, je me suis mis entre les deux. C'est-à-dire que, je l'ai refait en pignon fixe. De toute façon, c'était le thème cette année, j'ai tout fait en pignon fixe. Même les deux triathlons que j'ai fait, je les ai fait en pignon fixe. Et donc voilà, à partir du moment où tu as un braquet limité, tu es tributaire du parcours. Donc il y avait une grosse bosse dans le parcours, c'était roulant avant, plutôt plat. Et sur le retour, c'était faux plat descendant. Donc en fait, moi, je roulais avec le peloton jusqu'au pied de la bosse. Je montais la bosse avec les capacités que j'avais en fonction du moment. Et j'arrivais à peu près à accrocher le peloton, j'étais pas mal. Et le problème, c'est qu'après le retour, faux plat descendant, vent dans le dos, là, j'avais aucune chance, quoi. Là, j'étais limité par mon braquet. J'avais même mis un peu plus petit. J'avais mis 48-19 de mémoire. Donc voilà, de quoi passer la bosse vraiment, pas confortablement, parce que ça reste un pignon fixe, et qu'il y avait des portions jusqu'à 8%, et surtout vent de face dans la bosse. Mais voilà, sur le retour, je perdais le peloton, et là où le peloton bouclait en 48 minutes, voilà, moi je finissais en 50, 52 minutes le tour en fonction du moment. Ce qui me laissait tout juste le temps de retourner à la voiture, de manger un morceau, de boire un coup, et puis changer de veste s'il faut ou autre, parce que la particularité, c'est qu'il n'y a plus tout le long de l'épreuve. Les 13 heures de course qu'on a fait, enfin que j'ai fait, se sont faites quasiment en intégralité sous la pluie, donc j'avais un petit temps pour me changer et c'était vraiment idéal.
C'est que j'ai reçu un mail à la con, donc je regardais en même temps. Un mail désagréable, comme il en arrive parfois.
Ouais.
Et je regarderai ça plus en détail tout à l'heure.
Mais ouais, la stratégie, ça dépendait des personnes, parce que, par exemple, un des premiers, lui, sa stratégie, il roulait plus fort, et pour les parties de nuit, par exemple, il en profitait pour faire des micro-siestes de 5 minutes. Ça lui permettait de se poser, de dormir un peu. Donc voilà, moi, j'ai pas été trop confronté à la fatigue, parce que j'ai pas trop roulé la nuit, mais c'est vraiment propre à chacun. Et c'est, entre guillemets, facile à gérer, parce que t'as pas de contraintes de s'alimenter en roulant ou autre. Voilà, là tu roules tranquille, tu t'arrêtes, tu manges, tu te ravitailles et tu repars.
Toi, tu as fait 230 km, je crois, de mémoire.
Non, j'ai fait. Or, dans la course, j'ai fait 298 km. Et j'en ai refait deux. Juste pour boucler les 300 avec un autre compère de la course pour le fun. Mais ouais, j'ai choisi de m'arrêter à ce moment-là. Et ce qui m'a surpris, alors, c'est dans cette course, c'est moi je raconte toujours mes histoires au boulot ou dans la famille ou autre, et t'es toujours, toi, tu dois être bien placé pour le savoir aussi, t'es toujours l'extraterrestre de service. Tu sais, quand tu parles, tout le monde te regarde en disant, tu dis que t'as fait 543 km, on a l'impression que t'es descendu de la lune et que t'as des jambes pas comme tout le monde. Et ce jour-là, en fait, je me suis pointé au départ. Et j'avais l'impression qu'on parlait tous la même langue. On vient peut-être tous d'une autre planète, mais on venait tous de la même planète, en fait. On avait tous le même délire, on était tous là pour les mêmes raisons. C'était profiter de faire du vélo. Voilà, il pleuvait, mais bon, il faisait pas froid, il faisait 16 degrés. Donc la pluie, quand il fait 16 degrés, si t'es bien habillé, c'est pas dérangeant. Et on roulait en peloton, personne se connaissait. Enfin si, il y en a quelques-uns qui se connaissaient, mais moi, personnellement, je connaissais personne. Mais j'avais de quoi discuter avec tout le monde. On avait des sujets de conversation. J'ai discuté à l'arrière du groupe avec des mecs, j'ai discuté à l'avant du groupe avec les gars qui finissent dans les derniers et qui sont des machines de guerre. Mais on parlait tous de la même chose et on se comprenait tous. Et j'ai passé un super moment.
Alors il faut que tu arrêtes d'écouter Eric Le Blacher, parce que lui, il a cette phrase aussi. Qu'il aime bien passer du temps sur les courses ou écouter des épisodes parce qu'il a l'impression de retrouver des gens de sa planète.
Mais c'est ça, mais c'est vraiment ça. Et donc, j'ai vraiment ressenti ça.
Il faut
ça.
Vraiment que vous vous appeliez, les gars, parce que c'est pas possible. Hein. Vous allez vous paxer, faire un truc. Je pense que vous avez des choses à vous dire. Hein.
Et en plus, ce qui était dingue sur la course, c'est que, tu vois, moi j'avais préparé mes affaires la veille et tu connais les règles. En gros, il n'y a pas de fin. Mais. Quand tu te prépares, tu te dis bon bah là il va pleuvoir, donc déjà au bout de 5-6 heures, ouais, les mecs qui en auront marre de la pluie, ils vont s'arrêter. Et il va commencer à faire nuit au bout de 8 heures, bon au bout de 8 heures, les mecs ils auront pas de lampe ou ils auront pas envie, enfin tu vois. Ouais. Tu t'imagines tous les prétextes en fait qui vont obliger les gens à s'arrêter. Au bout de 100 bornes, il y en a plein qui vont s'arrêter, au bout de 200 bornes. Et en fait, la nuit est tombée. Et il y avait encore 50 mecs, avec au moins 50, avec des phares, avec des maillots, des gilets de sécurité. Et là, en fait, je me suis rendu compte que, ouais, en fait, des furieux, il y en avait plein, quoi. Et qu'ils s'étaient tous donné rendez-vous là. Et que là, on était partis pour rouler, mais je sais pas jusqu'à quand. Là où j'étais un peu arrivé avec mes certitudes, en me disant, ouais, voilà, au bout de 200 bornes, on sera plus que 10 à rouler, quoi. En fait, non, au bout de 200 bornes, on était encore 40, je crois.
Okay. Et toi, t'as coupé court quand même à 300, alors.
Ouais.
On va dire, putain, le mec, il a quand même fait 300 bornes, mais il faut quand même rappeler que tout simplement, tu devais repartir avec un pote et que le départ, il était un petit peu précipité et que t'as fait 300, mais qu'en réalité, t'aurais pu faire plus. Et il me semble que t'avais un genou qui commençait à hurler.
Ouais, voilà, en fait, c'est ça, j'avais fait mon trail de 100 bornes 2 semaines avant et j'ai chopé une espèce de tendinite au tibial antérieur, bref, sur le trail. Et quand je suis arrivé sur cette course-là, j'avais déjà la jambe qui grinçait un peu. Mais voilà, à la base, j'aurais pas dû la faire, cette course. Mais voilà, c'est une bande de jeunes qui organisent ça. Enfin voilà, c'était pas loin de la maison, le concept était fun. Je me suis dit, c'est dommage d'avoir ça si près, et ça serait con de pas y participer, quoi. Donc du coup, je me suis embringué là-dedans avec mon pote. Et donc on est parti, mais l'idée c'était de rouler, c'était pas de rouler jusqu'à l'usure, quoi. On en revient à la jauge mentale de tout à l'heure. Voilà, mon trail de 100 bornes, il a duré 14 heures. Sur les 14 heures, il n'y a plu pendant 8 heures. Il faisait 4 degrés. Enfin, autant dire que j'ai fini, la jauge mentale, c'était du goutte à goutte, hein. Il restait plus rien. Elle était sèche, quoi. Donc en 2 semaines, voilà, j'avais remis un peu d'eau dedans et terminé, quoi. Donc me voilà au départ, c'était un peu la cerise sur le gâteau de la saison. C'est-à-dire, tout ce que j'avais voulu faire dans l'année, tout s'était bien passé. Donc là, c'était juste un prétexte pour venir passer un bon moment avec un pote sur un vélo et découvrir en gros un nouveau monde que je connaissais pas. Donc on a pris le départ et puis on a roulé jusqu'à ce que ça aille plus, quoi. Là, j'ai fait au bout de 100 km, ma douleur dans la jambe s'est réveillée. Donc voilà, tu tires encore un peu, tu fais 200 bornes. Et en fait, à un moment, donc lui s'est arrêté à 250 km. Donc mon pote, ça, ce qui était déjà sa plus grande distance. Donc voilà, il était super content, il était super fier de lui. Il avait pareil, c'était un peu la cerise sur le gâteau de sa saison. Et donc lui, il choisit de s'arrêter. Nous, au départ, on était quatre en pignon fixe. Denis Moreno s'arrête aussi à ce tour-là. Donc c'était le dernier en pignon fixe, il me semble. Donc voilà, il n'y avait plus que moi. Il faisait nuit, donc j'ai fait 2-3 tours de nuit parce que vraiment, j'avais jamais eu l'occasion de rouler en peloton de nuit. Et c'est vraiment une super expérience. Et les conditions météo s'étaient améliorées, voilà, j'ai pris vraiment du plaisir à rouler. Mais arrivé aux 300 km, enfin 298, tu te poses la question de pourquoi tu roules en fait. T'es venu là pour te faire plaisir, voilà, tu t'es fait plaisir. Il y a une douleur qui s'est réveillée, bon, ça fait suffisamment longtemps que tu tires dessus. Et puis continuer, pourquoi faire? Personnellement, j'y voyais plus l'intérêt. C'est-à-dire que battre mon record de kilomètres, 550, je les aurais pas fait, clairement. Le dénivelé ne le permettait pas, et puis la préparation non plus. Et après, si c'est pour dire je roule jusqu'à minuit, ou je roule jusqu'à 4000 mètres de dénivelé, ou je roule. Enfin, tu trouveras toujours une raison. Mais là, en fait, c'est pas que j'avais plus envie, c'est que si c'était pour faire le tour de plus, mais le tour de trop, et que voilà, pendant 3 mois, j'ai plus envie de toucher à mon vélo parce que j'étais arrivé au fond de la jauge mentale et que là, j'étais passé sous vide et que ça marchait plus et que ça se transforme en calvaire, c'était vraiment pas le but. Cette épreuve, c'était censé être la cerise sur le gâteau. Et voilà, au 298e kilomètre, et ben voilà, j'étais arrivé à là où j'étais bien. Mon pote m'attendait depuis 2 heures, il avait pris sa douche. Voilà, j'ai fait 2 km avec un des participants histoire de faire 300, de finir sur un contron. Et voilà, plutôt que de faire le tour de trop, avec les organisateurs, on a bu une bière, on a discuté, on a mangé des frites pendant une demi-heure, on a passé un super bon moment, c'était super bien organisé, c'était une super bonne ambiance, et je finis la saison sur une bonne note, et c'est pour ça que j'étais venu, quoi.
Alors, la semaine dernière, tu avais sorti une expression typiquement lorraine que j'avais oubliée. Et là, elle m'est revenue, c'est que ce soit pendant ton trail 2 semaines avant sur 100 km ou sur le The Last Man Riding, il a fait un temps typiquement lorrain. Il a
C'est
plu qu'une
ça.
seule fois, il a plu qu'une seule fois, mais toute la journée.
C'est ça, il n'y a plus une fois pendant 13 heures au Last Man Riding.
J'avais trouvé ça très très drôle comme expression, ces petites pointes régionales, j'avais trouvé ça très très drôle
Mais
comme
clairement, moi,
expression.
comme je te l'ai dit la dernière fois, moi, je pense que je porte la poisse parce que j'ai des potes,
Oui.
ils veulent plus s'inscrire avec moi. Quand ils voient que je suis inscrit sur une course, ils s'inscrivent à l'autre bout de la France pour être sûr, quoi. Parce que quasiment à chaque fois que je fais une épreuve, il pleut, quoi. J'en ai fait une cette année où il n'y a pas plu. Une année de canicule, c'était sur le triathlon de l'Alsmann. Et là, c'était l'inverse, il faisait 35 degrés. Mais c'était aussi un super moment. Parce que là, j'ai eu l'occasion de faire la course avec ma femme, donc c'était d'enfer.
Alors justement, comment vous vous organisez? Parce que toi, donc si j'ai bien compris, pardon, si j'ai bien compris, toi, tu es 2 journées, 2 nuits ou je ne sais quoi.
C'est ça, ouais. Moi, je travaille
Et t'as
posté.
fait.
Hein.
Alors ça veut dire quoi ça?
Et ben, je fais des postes en matin, donc 6h, 14h, après-midi. 13h, 21h ou de nuit, 21h, 6h.
D'accord. Donc pour rappel, tu travailles à la centrale nucléaire de...
Quatre-Nom.
Où ça?
Quatre-Nom.
D'accord, très
Ouais.
bien. Tout comme ta femme.
Oui.
Donc sous tout cela, donc les horaires décalés et la pratique sportive et les deux enfants demandent une organisation soignée.
Ouais, c'est ça. Donc elle travaille deux journées. Et après, moi, l'avantage, c'est qu'en travaillant posté, donc à partir du moment où on arrive à gérer la fatigue, parce que clairement, la clé, c'est ça, et ben j'ai la possibilité de m'entraîner quasiment de façon transparente. Là où les gens, ils font le gros de leurs entraînements le week-end, moi, c'est quasiment le week-end où je m'entraîne le moins. Voilà, la sortie du dimanche matin collective, moi, je la fais jamais. Et ça, c'est des temps que ma femme peut avoir pour, elle, s'entraîner. Donc elle peut s'entraîner le soir après le boulot, on va dire à peu près une heure maximum. Et le week-end, elle a carte blanche pour fixer les entraînements qu'elle veut faire, les séances, si elle veut aller courir avec des groupes, parce qu'elle aime bien courir en groupe ou rouler. Et voilà, moi je m'arrange pour que tout soit fait dans la semaine. Quand je suis du matin, je suis à la maison à 14h, je récupère les enfants à 16h15, voilà, j'ai 2 heures. Donc c'est optimisé, je rentre, je saute dans mon short ou je saute dans mon cuissard et je pars rouler ou je pars courir, mais ces 2 heures-là, elles sont pour moi. Ouais.
Tu Zwift aussi pas mal. Ah oui, tiens, d'ailleurs, ouais. Sur la jauge mentale, j'avais une dernière petite question, parce que comme tu es, alors déjà, tu es handicapé informatique, mais ça, à la limite, c'est pas très, très grave.
Et j'arrive à faire marcher Zwift.
Ça, et c'est, en plus, c'est une vraie question. indépendamment de la blague, c'est une vraie question parce que... Là, on pourrait parler de fracture numérique et d'accès aux différents services de l'État via Internet.
Ouais.
Donc c'est quand même un vrai sujet. Et tu es aussi... t'es triathlète, quoi. Enfin, en tout cas, tu l'étais,
ouais.
Donc ça va mieux.
Ouais.
Voilà, ça va mieux. Et ça va mieux, mais on sait que pendant notamment le premier confinement, tout le monde a un petit peu balisé en se disant « Putain, on va pas pouvoir rouler, je vais perdre mon niveau et tout. » Alors, beaucoup se sont rués sur Zwift. Et ont enquillé des entraînements colossaux, des 200 bornes sur Zwift, des trucs comme ça. Et je me souviens qu'au moment où on a été libéré, qu'on a pu retourner dehors, et ben beaucoup étaient cramés.
Ouais.
Alors cramés physiquement, mais aussi cramés moralement.
Ouais,
parce
ouais.
Que,
tu peux me compter dans les beaucoup.
Tu peux te compter dans t'as cramé la jauge à ce moment-là, toi.
Ouais, alors moi c'est encore différent. Quand on a été confiné, en fait, j'ai essayé de garder un peu le lien avec le club et d'organiser un peu des trucs sur Zwift. Et en fait, je m'étais lancé dans un triathlon confiné. C'est-à-dire que j'ai une piscine dans le jardin, donc j'avais créé un système que j'utilise d'ailleurs toujours. Et cette année, j'ai nagé qu'avec ça, avec des chambres à air pour m'attacher au bord de la piscine et nager. Donc j'ai nagé une demi-heure dans ma piscine, après j'ai fait 90 km sur Zwift, et ensuite j'ai fait un semi-marathon sur mon tapis. Alors le tout, imagine, avec mes talents informatiques, j'avais réussi à faire un espèce de live Facebook suivi où j'ai des copains à moi qui couraient en même temps, enfin voilà, on a essayé de faire un truc vivant. Et j'ai fait donc 5 heures de mémoire comme ça, j'ai dû faire 5h20, donc c'était mon confinement. J'avais fait une médaille de finisher, un maillot et tout. J'avais vraiment essayé d'organiser une compétition, confinée. Sauf que ça, c'était le dimanche à la fin du confinement. On était libéré le lundi. Et le samedi ou le dimanche d'après, il y a un pote qui m'appelle qui me dit: viens, on va faire 200 bornes. Ok, vélo de chrono, roue pleine. Allez, on peut aller dehors. Allez, on y va. 200 bornes, et quand je te dis qu'au bout de 140 ou 150, mais j'ai pris, là, la jauge mentale, pareil, hein, sous vide, terminé, je pense que j'avais même cassé le réservoir. Et j'ai mis un mois à m'en remettre. J'ai fini, je me suis couché dans l'allée devant la maison, ma femme, elle m'a ramené à manger tout ce qu'il y avait dans le placard, enfin, j'étais liquide, quoi. Donc ouais, je fais largement partie des cramés du confinement, hein, clairement. Je reconnais mes torts et je les reproduis l'année d'après, tu vois, bêtement. Donc depuis, je me soigne.
On a été confiné combien de fois déjà ? Moi, j'ai perdu la mémoire avec tout ça.
On a été confiné une fois complètement, et après on était limité à 20 km, après 10 km. Alors ça, c'est pareil, quand on a été confiné, il y avait un certain kilométrage. Ouais. J'avais fait le périmètre, donc j'avais fait un 160 bornes en plein mois de novembre, au plus près de la limite du périmètre. J'avais pris une feuille. Où j'avais fait une feuille différente toutes les 3 heures que j'avais dans la poche, et je suis parti m'enquiller, je sais pas, 7 heures de vélo par 2 degrés, mais juste pour le délire, quoi. Juste pour le fun d'avoir fait le tour de la boucle.
Alors que si, à la même période, non confiné, jamais t'aurais fait un tour.
Mais jamais de la vie. Jamais
c'est, c'est ça qui me fascine dans, le, dans les confinements et dans les réactions qu'il y a pu y avoir, et notamment les gens qui se sont mis à vouloir courir en n'ayant jamais couru de leur vie.
C'est ça.
C'est là, on est confiné, ah, il faut que je sorte. Il n'y a pas le droit de faire de sport, oh putain, faut que je me mette au sport.
Ouais,
ah après, putain, faut que j'aille faire quelque chose.
Après, c'est un cas particulier où chacun a cherché son exutoire et a peut-être essayé des nouvelles choses ou autre. Mais je pense qu'il n'y a pas plus de coureurs et pas plus de rouleurs qu'avant. Par contre, peut-être les gens ont évolué et moi j'en fais partie dans leur pratique et dans leur discipline. S'il n'y avait pas eu le confinement.
À quel niveau tu as évolué dans ta pratique? Ah bah oui, de ce que tu as raconté.
Ouais, s'il n'y avait pas eu le confinement, je pense que je l'aurais peut-être fait, mais dans 10 ans ou à une autre occasion, mais jamais je me serais lancé à ce moment-là dans la traversée des Alpes en vélo, tout seul, avec un sac à dos accroché derrière la selle. Enfin, tu vois, ça me serait même jamais venu à l'idée. Et c'est sans regret.
Bah, même si tu regrettais, est-ce que ça serait grave ?
Non, bah ça, comme je te l'ai écrit, ça reste que du sport. Hein. C'est, y a rien de grave dans le sport.
C'est pas la fin du monde, hein, donc.
Non. Mais on y accorde peut-être des fois trop d'importance et je me mets dans le lot. Hein. C'est, on a l'impression que tout tourne autour de ça et je pense que plus on en fait, plus on a du mal à se détacher des choses et de l'importance qu'on y met. Et des fois, il faut prendre un peu de recul et réussir à se dire que voilà, c'est que du sport, quoi.
Je vous assure que le duo Le Blacher et Lascan, ça va déchirer. Donc je vous propose un truc. Si vous avez survécu à l'épisode jusque-là, envoyez-moi un message sur les différents réseaux sociaux avec oui à un épisode avec Romain et Eric. Eric, si tu m'entends, tu sais déjà ce que je vais te demander. Mais écrivez-moi pour dire oui, je veux écouter Romain et Eric déblatérer pendant des heures. Et oui, Richard, je veux t'entendre mâcher ta pizza pendant que les deux racontent n'importe quoi.
Mais le pire, c'est que dans le
discours... Mais c'est que ça va être super intéressant.
Non, mais dans le discours que je tiens, je suis le premier à essayer de convaincre. Hein, parce qu'on est tous dans notre train de vie, on est tous dans nos habitudes à courir toute la journée pour essayer de faire un maximum de choses. Et on se retrouve des fois encore pire quand les gens ont un coach. Et c'est pour ça que j'en ai pas, c'est qu'ils ont leur séance à passer. Et la Terre peut s'arrêter de tourner, il faut qu'ils passent leur séance. Et des fois, il faut réussir à s'éloigner de ça, quoi.
Alors, bon, attends, Richard.
En plus, je parlais à un coach, alors là, il y a embrouille.
La première chose à faire, c'est de dire que quand on doit louper une séance, c'est pas grave.
Ouais.
Si une séance est loupée, c'est pas la fin du monde. Ce qui compte dans l'entraînement, et tu le sais, et c'est pareil dans plein d'autres choses, dans plein de métiers, ou en musique, en plein de choses, c'est pas la violence de l'instant, c'est l'accumulation qui produit un résultat au final. Tu loupes une séance, c'est absolument pas grave. Si on est fatigué et qu'on le sent pas, il vaut mieux se reposer plutôt que d'aller s'épuiser à rien. Si on a des obligations familiales ou professionnelles, il y a des choses quand même plus importantes que d'aller faire un tour de vélo. Mais il y a aussi des gens pour qui ce tour de vélo est très important. Il y a des gens pour qui aller faire du vélo, c'est un exutoire pour s'échapper à un quotidien pas toujours très rigolo. La maladie d'un proche, une situation de couple pas marrante, un enfant malade, n'importe quoi. Donc le côté, c'est juste du sport. Pour certaines personnes, c'est pas que du sport. C'est aussi une condition indispensable à leur santé mentale. Par contre, si on en revient vraiment au côté coach, j'ai une séance à faire et tant pis, j'irai chercher les gosses une heure après. Si on est fatigué ou n'importe quoi, non, une séance, c'est juste une séance. Si on n'est pas bien, ben, il vaut mieux ne pas la faire.
Ben moi, clairement, c'est pour ça, entre autres, que je suis pas coaché et je le serai jamais. Comme je te disais, moi, je m'entraîne en fonction du boulot et ma plus grosse contrainte, là où pour beaucoup de gens, c'est le temps, moi, c'est la fatigue. Quand tu sors de nuit, moi j'emmène les gamins quand je sors de nuit à l'école à 7h30 au périscolaire, je me couche, je mets le réveil à 13h30 histoire d'avoir le temps de m'entraîner avant de les récupérer à l'école. Autant dire que là tu mets pas une séance de VMA, tu prévois même rien, tu prévois 2 heures pour t'entraîner et après tu fais ce que tu arrives à faire, ce que tu as envie de faire. Je fonctionne beaucoup comme ça. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de contraintes organisationnelles ou au travail ou autre. Quand je vais faire du sport, je vais faire du sport pour me faire plaisir. Si j'arrive dans une montée et que je me sens bien et bah, que j'ai envie d'attaquer, j'attaque. Et puis bah, si j'avais prévu d'attaquer et que ça va pas, bah, tant pis, je continue mon footing tranquille et puis je rentre à la maison. Et j'ai du mal à me contraindre dans le sport à faire des choses que j'ai pas envie de faire. Ce que j'ai fait auparavant, hein, je t'aurais pas tenu le même discours il y a 10 ans où je faisais de la VMA alors que je détestais ça à pied, mais j'en faisais quand même. Enfin voilà, je faisais entre guillemets ce qui était écrit dans les livres et qu'il fallait faire. Et aujourd'hui, je suis vraiment sorti de ce truc-là et si j'ai pas envie de le faire, je le fais pas clairement. Donc après, peut-être que ça limite ma progression, peut-être que je pourrais faire mieux. Bah, je me contente de ça et je me fais plaisir comme ça. Et je pense que c'est le but premier, quoi.
La bonne nouvelle, c'est que en 10 ans, les choses ont beaucoup changé. Et toi qui réussis à avoir un volume d'entraînement assez conséquent, on se rend compte que les séances de VMA sont pas aussi importantes ou les séances de seuil sont pas aussi importantes qu'on l'a dit par le passé.
Ouais.
Et alors, si on a un volume un petit peu restreint, oui, ça reste toujours important. Mais si on a la chance d'avoir un volume hebdomadaire qui commence à être intéressant autour de 10-12 heures, là c'est beaucoup moins intéressant.
Bah moi c'est ça, je suis en moyenne sur l'année, je suis peut-être à, ouais ça doit être ça, 10-12 heures d'entraînement, et j'arrive à enquiller des semaines de 20, je crois que mes plus grosses semaines elles font 25 heures quand je fais des jours chocs, mais que sur des choses que j'ai envie de faire et des choses qui me font plaisir. Et sur l'année, il n'y a pas une séance que j'ai faite sous la contrainte.
Et ça, ajouté à tes 22 heures de travail hebdomadaire à la centrale.
Non, non, alors je travaille à temps plein quand même. Après,
ah oui, mais temps plein, c'est 22 heures à EDF.
Non, non, ça c'est une légende, ça. Ça c'est une légende, je suis à 32 heures. Et ma femme à 40.
Ah, bah voilà. Là quand même, on commence à discuter, voilà. 40 heures par semaine, oui, oui. Ça commence à être bien. C'est... 32, hein.
Ouais, mais 32, décalé, hein. c'est un autre sport.
Non,
hein.
Non, mais hey, Romain. Je chambre.
Oui, je cherche pas à te convaincre.
Non, bah non, déjà, parce que tu me feras jamais rebosser en entreprise.
Ouais.
Et en plus, je t'en avais parlé, mais toi ou Geoffrey, je crois, c'est ça ? Non ? Sébastien. Donc, Courir et Bien-être, ouais. Avec qui je dois faire un épisode aussi. Lui, je l'avais rencontré à Hayange en traversant la Lorraine. Et il bosse dans la sidérurgie. Et toi ou lui, vous avez des boulots difficiles. Et je peux être que admiratif devant ce type de travail.
Bah, moi,
c'est pas forcément le volume qui compte, mais c'est que c'est quand même pas des boulots simples.
Ouais, donc, puis ce qui m'étonne toujours dans les podcasts ou autres. Bon, après, t'interviews beaucoup de mecs avec un niveau. Je veux dire, ils en ont un comme moi dans chaque jambe. Mais c'est qu'on a toujours du mal à se projeter sur leur façon de vivre, parce qu'on se demande en fait quel boulot ils font, quels horaires ils ont, quelles conditions familiales ils ont, parce qu'en fait ça change tout. Si on veut pouvoir s'identifier aux gens, moi quand j'écoute un podcast, bah, j'aime bien que ça soit un mec père de famille, qui ait un boulot, qui ait des activités autres que le sport, et qui forcément me parlera plus qu'un mec élite qui est entre guillemets sponsorisé pour faire ça et qui a tous les moyens pour le faire correctement, quoi.
Bah, on en revient à Babache, hein, à Le Blacher. Il roule la nuit, hein, le bougrin, il est marié, il a des enfants.
Ouais, voilà.
Bah, il roule la nuit, alors évidemment il a failli laisser la vie,
ouais.
Mais n'empêche que Pépère, bah, quand il veut rouler, quand il veut borner vraiment, il roule la nuit.
Et tu vois, quand on parlait de jauge mentale, tu vois, moi j'ai un moyen de comparaison, moi j'ai une jauge mentale d'un litre, quand lui il a une jauge mentale de 3 mètres cubes. Parce que avec les conditions, voilà, comme tu disais, les pères de famille, ils travaillent, et quand je vois ce qu'il est capable de s'enquiller autant en volume... d'entraînement qu'en compétition ou en événement qu'il arrive à enchaîner, moi c'est quelque chose que j'admire vraiment, parce que moi j'en suis clairement incapable, au-delà du physique, mais vraiment mentalement j'en suis vraiment incapable.
Pour conclure, 2023, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi en 2023?
Alors 2023, bah, je me suis déjà inscrit sur un trail de 100 km et il y en aura donc au mois de mai, et il y en aura certainement un autre au mois de septembre sur Nice dans le cadre de mon inscription au futur pour l'UTMB. Ça c'est les passages obligés. Après dans ce qui me tient à cœur, voilà, j'ai un peu envie de me diversifier. J'ai toujours eu envie de faire un grand truc en natation. Sauf que j'ai toujours été trop feignant et j'ai jamais assez aimé compter les carrelages pour réussir à me lancer dans un truc sur l'eau. Par contre, cet été, j'ai fait du paddle et il y a une lumière qui s'est allumée là-haut. Et j'ai envie de me lancer dans un truc assez long en paddle. Donc voilà, les 543 km de la Moselle, c'était clairement pas envisageable en paddle. Mais par contre, la traversée du département en paddle, ce qui correspond à 76 km, c'est quelque chose qui me paraît réalisable, ou au moins qui me paraît valoir le coup de tenter. Alors, comme pour quand je l'ai fait en vélo, hein, je prends aucun risque. C'est-à-dire qu'à mi-chemin, quasiment, encore une fois, je passe à côté de la maison, je me lance. Si j'y arrive, j'y arrive. Si j'y arrive pas, j'y arrive pas. Mais courant avril, j'ai envie de me lancer sur ce truc-là, sachant que le plus long que j'ai fait, c'est 10 km en paddle. Donc il y aura quand même un peu plus à faire. Mais ça me permet de me motiver pour l'hiver, voilà, de travailler le gainage, de faire des exercices d'équilibre. Enfin voilà, ça me restimule un peu et ça me met un petit peu un défi, histoire de faire autre chose que du Zwift et de courir à la frontale. Et je garde un objectif vélo. Donc là, ça reste à définir, mais je voudrais faire le tour du département de la Moselle au plus près de ses frontières en vélo. Donc j'ai déjà tracé ça sur Strava. Je crois que de mémoire, ça fait 660 km pour 8000 de dénivelé. Donc là, voilà, on part sur un tout autre délire. Là, je pars complètement dans l'inconnu. On part pas sur 24 heures. Là, ça sera sur 2 jours, sur 3 jours. Je sais pas encore. Comment dormir, bivouac chez l'habitant, à l'hôtel ou autre. Je me mets pas de limite, pas de barrière. Je sais pas encore comment je vais faire. J'ai encore jamais essayé de bivouac, donc clairement il faudrait que j'essaye avant. Enfin, il y a encore plein de choses à définir, mais c'est un des objectifs en vélo qui me plaît. Donc on reste autour de la maison.
Très bien, excellente idée. Il y a beaucoup de choses à découvrir autour de chez nous qui sont méconnues. Je ne rechigne pas devant un voyage ou devant une épreuve lointaine, mais quand on voit ce qui nous reste à découvrir autour de la maison, ça serait dommage de ne pas en profiter.
Bah, c'est ça, je vais essayer de faire autour de chez moi, et après, mais les épreuves lointaines, pourquoi pas un jour, hein. Mais comme tu disais tout à l'heure, au niveau logistique, au niveau finance, voilà, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Alors pour l'instant, voilà, tant que les enfants en bas âge et ont besoin de leurs parents, et bah, autant faire des choses qui tournent autour de la maison, c'est le plus simple à organiser.
Exactement. Je vais te laisser pour ta minute de solitude, Romain.
Ouais.
Tu sais quoi faire.
Ouais.
Tu laisses ta fenêtre ouverte, tu fermes rien.
Ça marche.
Quand t'as fini, tu poses ton casque.
Ouais.
Et tu vas te brosser la barbiche.
Ça marche.
Bon, on se parle tout à l'heure.
Ça marche.
Bisous.
À plus.
Merci, Romain. À très bientôt.
Ciao. Donc pour ma minute de solitude, quoi dire? Bah déjà un grand merci à Richard, parce que comme il l'a précisé tout à l'heure, il aura fallu 3 fois pour réussir à faire un podcast, donc il aura fait preuve de beaucoup de patience avec moi et mon handicap informatique. Et je le remercie aussi de m'avoir donné la parole, parce que comme je le disais tout à l'heure, je trouve que c'est bien de pouvoir s'identifier aux gens qui sont sur les podcasts, et que ce soit pas toujours des mecs dont c'est le métier, dont ils peuvent faire ça toute la journée, et que ce soit des gens qui ont un planning à respecter, qui ont des enfants à la maison, une femme qui fait du sport aussi, et de montrer que voilà, à l'échelle de chacun, bah, c'est possible, on peut faire du sport, on peut se lancer des défis, on peut faire des aventures plus ou moins longues. Ça dépend de l'organisation et de la volonté de chacun. Et si j'avais une chose à dire, minute de solitude, c'est ne pas toujours vouloir chercher une médaille de finisher ou un maillot de finisher ou participer à la course qu'on a vue sur Instagram parce qu'on veut faire la même photo que tout le monde, mais plus faire les choses qu'on a envie de faire pour se faire plaisir. Voilà, si c'est, je sais pas, votre grand-mère, elle habite à 120 km de la maison et que vous avez jamais fait 120 km, vous avez fait que 60, et ben voilà, lancez-vous le défi de vous entraîner toute l'année pour que, au mois d'août, quand il fera beau, allez boire un café chez votre grand-mère et ça vaudra toutes les médailles de finisher du monde. Donc, vraiment trouver des choses qui nous plaisent, qui nous motivent et puis pas se mettre de barrières. Voilà. Merci à tous. Au revoir.